Merci, merci beaucoup de votre accueil. Bonsoir à tous. Et c'est vrai que, comme l'a dit Vincent, c'est beaucoup plus impressionnant d'être là ce soir devant vous que devant une caméra et d'interroger mes invités. Donc voilà, j'espère que je serai à la hauteur. Et puisque cette nuit est placée sous le patronage de Saint Joseph, je vais vous faire une confidence. Donc, je me présente aussi rapidement. Je suis à la fois l'animateur de l'émission Enquête d'Esprit le dimanche sur CNews, qui est une émission religieuse, et du journal France Catholique. Voilà, alors j'ai 50 ans, je suis marié, malheureusement nous n'avons pas eu d'enfant avec ma femme, mais cela nous permet aussi de nous investir à fond dans notre activité journalistique, puisque effectivement ma femme travaille avec moi sur le journal. Et donc ce que je disais, c'est qu'effectivement à France Catholique on aime beaucoup Saint Joseph, et lorsque le pape François a décrété une année qui serait consacré à Saint Joseph, eh bien, nous avons fait quatre numéros, voilà, pour décrire les différentes facettes de Saint Joseph, le père de la Sainte Famille, le patron de l'Église universelle, le patron de la Bonne Mort. Et donc, je suis très heureux de pouvoir aussi démarrer ce petit témoignage par la figure de Saint Joseph. Et je voudrais essayer avec vous ce soir d'essayer de trouver ce qu'il peut dire à un journaliste comme moi, comme tous les journalistes, ce qui n'est pas une évidence puisque, vous le savez, Saint Joseph n'a pas prononcé une seule parole dans l'Évangile, et donc pour un journaliste, forcément, c'est pas terrible. Et puis la deuxième chose qui est encore plus difficile pour un journaliste peut-être, c'est que c'est l'homme de l'obéissance. C'est-à-dire que dans les situations les plus angoissantes, les plus difficiles, lorsqu'il a fallu fuir en Égypte, lorsque, avec Marie, ils ont perdu trace de Jésus qui était au temple à Jérusalem pendant 3 jours, eh bien, voilà, il a eu confiance en Dieu. Et donc, il a préféré faire confiance à Dieu plutôt que de s'arrêter à ses propres angoisses. Et je crois que c'est très important, en fait, pour un journaliste, parce que toute la journée, on est confronté à des nouvelles, des catastrophes, des guerres, des attentats. Aujourd'hui, avec Internet, eh bien, c'est toutes les minutes, toutes les secondes, peut-être, que nous avons de nouvelles informations. Et il faut réussir à garder l'espoir, à garder même l'espérance au milieu de toutes ces catastrophes. Et c'est pas toujours facile. C'est pourquoi la figure de Saint Joseph, elle est très précieuse, parce que lui, justement, comme je le disais, n'a pas craint de faire confiance à Dieu, malgré les apparences, malgré tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il voyait, le massacre des saints innocents, etc. Donc c'est un bon modèle finalement pour nous journalistes, et cela nous incite aussi, puisque effectivement c'est l'année de l'espérance, à placer aussi notre espérance non pas dans les choses humaines, parce que à vue humaine, eh bien parfois il y a des situations dont il n'y a pas de solution, eh bien à placer notre espoir en Dieu. Vous savez, l'espérance, on la compare parfois à une encre qui est placée dans le ciel, et finalement c'est là, dans le ciel, que réside notre espoir le plus fort, parce que Dieu est tout puissant et qu'il veille sur nous, qu'il ne cesse pas de nous aimer, d'intervenir aussi dans l'histoire. C'est vrai qu'à France Catholique, on aime beaucoup aussi la Vierge Marie. Hein. On la met en page 2 toutes les semaines. On présente une Vierge de différentes régions de France ou maintenant de pays européens. Et puis après, ce sera dans le monde, parce qu'on a voulu aussi se placer sous le patronage de la Vierge Marie. Et donc, c'est une manière pour nous de vouloir aussi transmettre cette espérance, celle de la Vierge Marie. Vous savez que la Vierge Marie, on va méditer tout à l'heure les mystères douloureux, eh bien, elle est restée debout au pied de la croix. Là aussi, c'est une source d'espérance pour nous, que cette attitude de la femme forte qui se tient devant la mort de son fils et garde l'espérance. Et donc voilà, ces exemples de Marie, de Joseph, de la Sainte Famille, bien sûr, c'est un exemple pour le journaliste que je suis. Vous savez, le monde du journalisme, c'est un monde qui est un monde d'apparence, un monde où tout va très vite, je le disais tout à l'heure. Et donc il faut réussir à garder la tête froide, justement, à ne pas se laisser emballer par toutes les informations qui nous tombent, et essayer de discerner aussi ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste dans tout ça. Et donc pour ça, eh bien, l'exemple de Saint Joseph, qui a vécu donc toute sa vie avec la Vierge Marie et avec Jésus, avec l'enfant Jésus, eh bien, est un exemple justement pour garder notre cœur, mon cœur, en essayant en tout cas de le garder concentré en Dieu, si je peux dire, de garder une vie intérieure qui soit comme un refuge dans tout ce tourbillon de l'actualité. Et c'est pourquoi voilà, j'ai besoin, moi, de chaque jour d'aller à la messe pour justement retrouver la présence de Jésus dans l'Eucharistie, de dire le chapelet aussi tous les jours pour avoir la protection de Marie. Vous savez, Marie a été et le chapelet ont été appelés par les papes comme le fouet du démon. Et je crois vraiment qu'effectivement, cette récitation du chapelet, même si là ce soir on va le méditer, mais on n'a pas forcément toujours le temps, c'est quand même voilà, un environnement, un climat marial qui est créé autour de nous et qui, je le crois profondément, nous protège. Donc la messe où on peut aussi offrir, c'est voilà, le travail de chaque jour lors de l'offertoire, l'offrir à Jésus qui s'offre lui-même pour nous sur la croix. Et puis l'oraison. L'oraison, vous savez, c'est cette prière prolongée. Voilà, moi, pendant une demi-heure le matin, j'ai besoin de ce temps où on fait comme le jeune prophète Samuel qui dit à Dieu: « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et voilà, c'est une manière justement de prendre du recul, de la distance par rapport à l'actualité et à s'ancrer dans les vrais, j'allais dire les vraies valeurs, mais c'est plus que des valeurs, c'est évidemment de s'ancrer en Dieu. Voilà, et puis on a un autre saint ce soir, et c'est très, très émouvant, c'est Saint François d'Assise, pardon, avec sa tunique qui est là. Et vous savez, Saint François d'Assise, c'est celui qui parcourait les villages de son temps, au Moyen-Âge, en disant « l'amour n'est pas aimé ». Et voilà, il le criait vraiment à travers les rues pour que les gens se réveillent et prennent conscience justement qu'ils sont aimés, mais malheureusement que, et c'est encore vrai aujourd'hui, on a du mal à lui rendre cet amour. Eh bien, je crois que justement, c'est le rôle aussi du journaliste chrétien que de donner les moyens de connaître, de mieux connaître Jésus, de mieux connaître Dieu et les saints, la Vierge Marie, grâce aux émissions que j'anime, et il y en a d'autres, bien sûr, grâce au journal aussi, de former les gens. On parlait tout à l'heure de formation grâce à ce petit livret que vous avez pour vos veillées et vos nuits. Et je crois que c'est très précieux parce que pour aimer, il faut connaître. Et il faut aussi connaître pour aimer, bien sûr. Ça va dans les deux sens, mais c'est pour dire que voilà, quand on aime, on a envie de connaître la personne qu'on aime. Et donc, à travers les émissions, à travers le journal France Catholique, eh bien, on essaye justement de communiquer ce que l'on comprend de la foi à travers, justement, je disais tout à l'heure, des prières à la Vierge Marie, à travers la vie des saints qu'on aime beaucoup, à travers aussi justement les traces de ces saints dans les différents diocèses et régions, notamment de France, hein, parce qu'on s'appelle France catholique, donc voilà, on est particulièrement attaché bien sûr à notre pays. Et tout ça vise en fait à réveiller justement, à essayer à notre petite mesure de réveiller la foi dans notre pays. Et c'est vrai que quand je vois une belle assemblée comme la vôtre, eh bien c'est très réconfortant. On se dit, ben voilà, c'est pas foutu. Et donc, voilà, il faut continuer à prier, bien sûr, à prier pour chacun d'entre nous, mais aussi pour la France, pour tous les Français qui se sont éloignés de la foi, malheureusement, pour tous les enfants qui ne sont pas baptisés. Et vous savez peut-être, si vous êtes grands-parents, combien c'est douloureux dans certaines familles. Voilà, pour qu'un jour, eh bien, la foi puisse vraiment renaître au grand jour dans notre pays et découvrir aussi combien ça rend heureux. Voilà, donc ça c'est vraiment l'objectif, ce qui me guide chaque jour dans mon travail de journaliste. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile, il y a des épreuves, il y a des débats, il y a des contradictions parfois sur certains sujets très difficiles comme l'avortement par exemple. Il y a eu beaucoup de l'année dernière de débats, de polémiques autour d'une émission que j'avais faite sur ce sujet-là. Mais je crois que c'est important comme ça de faire un témoignage et de montrer aussi que finalement l'Église est au centre du village à travers la télévision. C'est aussi une façon de dire Dieu existe, le surnaturel, ce qui n'est pas visible de nos yeux, existe, il peut rendre heureux, il y a des manifestations extraordinaires comme les apparitions, comme les miracles. C'est toujours fascinant d'observer ça, hein. Par exemple, en cette période de carême, en général vers la semaine sainte, on parle du Saint-Suaire, il va y avoir une ostension de la tunique, sainte tunique d'Argenteuil aussi, à la fin de ce carême. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que c'est aussi le regard de la science qui vient à l'appui de la foi, hein, alors qu'avant on avait plutôt tendance à les opposer. Et bien aujourd'hui, on se rend compte que la science vient finalement à l'appui de la foi en la mort et la résurrection du Christ. Voilà, que nous montrent ces vêtements. Donc c'est pour ça aussi que j'ai été très ému de savoir qu'il y allait avoir la sainte tunique de saint François d'Assise. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si... Oui, c'est peut-être un peu court. Donc on peut continuer. En tout cas, voilà, vraiment, je vous recommande à votre prière tous les journalistes, parce que leur mission aujourd'hui, elle est pas facile, hein. Il y a du combat, comme je le disais, et donc il faut vraiment être ancré dans la foi si on veut tenir chaque jour. Continuer à croire que c'est possible. Alors on a des très beaux témoignages aussi. Je parlais de l'avortement tout à l'heure. Eh bien, lorsqu'on a fait ces émissions sur ce sujet-là, on a eu des femmes qui ont témoigné et qui, ça nous est revenu indirectement aux oreilles, comme quoi, eh bien, elles avaient renoncé à leur projet d'avorter. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont très belles, ou des témoignages aussi de musulmans qui écoutent cette émission parce que enfin on parle de spiritualité. Et c'est vrai qu'en France, eh bien, il y a la fameuse laïcité à la française qui fait qu'on n'ose pas parler de religion. Eh bien là, on ose et ça touche des gens qui sont d'autres religions ou ne sont pas croyants ou sont de vieux croyants, comme on les appelle, qui ont gardé un peu une nostalgie de leur enfance, mais ne pratiquent plus et finalement se disent à quoi bon. On leur montre des belles choses, on leur montre de la beauté, on leur montre aussi des croyants, des prêtres, des religieux, des religieuses qui s'engagent et qui croient vraiment à ce qu'ils font, à ce pourquoi ils se sont engagés. Et je crois que ça touche. Voilà, donc le message aussi, c'est qu'il faut oser. Ça a été une des grandes, audaces de lancer cette émission religieuse, hein, pour ne rien vous cacher. Aujourd'hui, à l'époque, c'était il y a 5 ans, peu de monde y croyait vraiment, croyait que ça marcherait. Et puis en fait, aujourd'hui, ça marche. On a 300 000 personnes qui nous regardent, plus encore à travers la radio Europe 1 aussi qui reprend à 13h. Et ça veut dire que on a fait la preuve qu'il y avait une demande en France pour ce type de programme religieux où on parle de spiritualité, où on n'a pas peur justement d'aborder des sujets qui aujourd'hui peuvent paraître étranges. Enfin, imaginez que vous alliez parler des apparitions de la Vierge Marie à votre collègue de travail. Il vous regarderait peut-être avec des yeux ronds en vous disant « il est complètement fou celui-là ou celle-là ». Eh bien, voilà, là, on fait venir des gens compétents, on fait venir des historiens qui racontent les choses, qui se sont documentés, qui se sont formés, justement. Ça, c'est très important, bien sûr, hein, parce que le témoignage, c'est bien, mais un témoignage, il faut aussi que ce soit nourri par de la connaissance, de la lecture, de la formation. Voilà, les deux vont ensemble. Si aujourd'hui on veut convaincre nos contemporains que la foi peut les rendre heureux et peut les combler dans leur vie. Et donc vraiment, voilà, je vous engage à prier pour les journalistes et à les encourager aussi quand on reçoit nous. Alors on a la chance à France Catholique de recevoir plutôt du courrier de gens qui nous remercient, mais c'est vrai que c'est pas forcément dans la plupart des médias le cas. Et donc quand vous voyez une belle émission, n'hésitez pas aussi à vous manifester, à remercier, parce que ça aide, ça encourage les journalistes courageux. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, et donc voilà, ils ont aussi besoin d'être soutenus dans leur combat de tous les jours, dans leur travail, le fait de défendre aussi les idées auxquelles ils croient, de défendre leur foi, de continuer aussi à travailler, à se former pour pouvoir convaincre. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être aussi un mot sur France Catholique qui a fêté cette année son centenaire. Et c'est vrai que ça a été vraiment pour moi une très belle découverte que l'histoire de ce journal, qui a été fondé il y a 100 ans par un soldat, un général, le général de Castelnau, qui, lorsqu'il a vu que c'était donc en 1924, le gouvernement voulait imposer des lois contre la religion, des lois anticléricales, des centaines de milliers de personnes dans la rue, et ensuite il a créé un journal pour accompagner ce mouvement, et ça a été France Catholique, et il a réussi à faire reculer le gouvernement sur ces lois anticléricales. Et donc c'est vrai que c'est un bel exemple, parce que parfois on aurait la tentation de baisser les bras, de se dire que ça ne sert à rien, que de toute façon on ne changera pas le cœur des gens, on ne changera pas le cœur des gouvernants. Mais en fait, on est beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Alors il ne s'agit pas évidemment d'utiliser la violence, hein, quand on est chrétien évidemment ce n'est pas permis, mais en revanche de montrer pacifiquement ce à quoi on croit, et de le faire à travers des processions dans les rues par exemple, et ça se développe de plus en plus, à travers des pèlerinages, à travers des nuits de prière aussi, bien sûr la prière, la communion des saints, c'est extrêmement précieux. En fait, on représente une force une spirituelle immense, parce qu'en fait, Dieu est avec nous. Il faut y croire vraiment profondément que Dieu agit dans notre monde à travers sa providence. Et je crois que l'objectif de la vie du chrétien, en réalité, ce n'est pas d'essayer de gagner par ses propres forces, hein, le journaliste qui parlerait le mieux du monde, qui écrirait le mieux du monde, il n'arriverait à rien s'il le fait par ses propres forces. Vous savez, moi j'ai été marqué dans ma carrière de journaliste, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je l'exerce. Au début de ma carrière, j'étais aspirant journaliste et je suis allé voir un élu local, un adjoint au maire dans le nord de la France, dont je suis issu. Et cet adjoint au maire m'a dit une phrase que j'ai toujours retenue. Il m'a dit « il ne faut pas se prendre pour le fil, il ne faut pas être le fil qui se prend pour l'électricité ». Eh bien voilà, je crois que vraiment le travail du journaliste, il est là. Il est d'être un passeur, un intermédiaire, un médiateur, tout ce qu'on veut. Mais la lumière, elle ne vient pas de lui. Et le chrétien, c'est pareil. La lumière ne vient pas de lui, elle vient de Dieu, et tout le travail finalement c'est de s'effacer d'une certaine manière, en tout cas de ne pas laisser trop de place à notre ego, à l'égoïsme, pour laisser passer la lumière. Et ensuite aussi se former, hein, encore une fois, avoir une compétence réelle, quand on parle des journalistes, en écriture ou si c'est à la télévision, à la radio, sur la manière de s'exprimer. Mais que tout ça soit mis au service de faire connaître le bon Dieu, parce que c'est lui seul vraiment qui peut nous sauver. Et ça, c'est vrai que là aussi, hein, le combat du journaliste, c'est aussi le combat contre son propre ego, contre son propre orgueil, de voir son nom écrit voilà, dans les journaux, à la télévision, son visage. Et malheureusement, c'est assez présent. Hein, on voit bien aussi sur les réseaux sociaux combien, lorsqu'on envoie un message sur Instagram ou je ne sais quoi, eh bien, on est content d'avoir des likes ou d'être relayé. Parce que du coup, on pense qu'on est quelqu'un d'important, mais je crois que c'est vraiment un piège dont il faut se défier. Et encore une fois, l'important, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement couper avec ses instruments. Malheureusement, c'est difficile de s'en passer. Parfois, il faut le faire. Hein, pendant le carême, ça peut être un bon moment. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut être conscient que ce n'est pas nous qui annonçons la lumière, enfin qui sommes la lumière. On ne fait que l'annoncer, et donc voilà, il faut rester à sa place. Je pense que ça, c'est très important pour que le message passe du mieux possible. Voilà ce que je voulais vous dire.
Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Emily ? Je souhaiterais quand même que vous reveniez un petit peu, non, encore un petit peu, sur la polémique qu'il y a eu effectivement lorsque vous avez évoqué que par rapport à l'avortement, à l'avortement, même des gens de CNews, hein, à Lance Ferrari, qui a créé vraiment une contradiction par rapport à ce que vous aviez dit. Comment vous l'avez pris? Est-ce que vous êtes senti trahi? Qu'est-ce que vous avez compris qu'il n'avait rien compris? Vous pouvez revenir peut-être un petit peu là-dessus, parce que c'est quand même très très important.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ça a été une tempête médiatique extrêmement forte, peut-être la plus violente que j'ai eu à connaître dans ma carrière, parce qu'évidemment c'est une télévision CNews qui a une audience suffisamment importante pour présenter un danger pour des gens qui voilà, ne pensent pas, enfin pensent différemment et voudraient que cette télévision cesse d'exister. Mais sur un sujet comme l'avortement, on se rend compte que finalement les divisions elles traversent voilà, même à l'intérieur même de la rédaction de CNews, il y a eu effectivement des voix qui se sont élevées de journalistes pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui avait été dit dans mon émission. Donc pour juste rappeler effectivement les faits, j'avais passé dans l'émission une statistique montrant qu'il y avait 74 millions de morts dans le monde chaque année liées à l'avortement. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus le dire en France parce que ça veut dire que c'est considéré que le fœtus est un être humain, ce qui peut nous sembler une évidence, mais malheureusement, dans la loi, eh bien, voilà, la loi ne veut pas se prononcer sur ce sujet-là et surtout pas admettre que c'est un être vivant parce qu'évidemment, du coup, on ne pourrait plus autoriser l'avortement. Donc, cette émission qui est passée le dimanche a provoqué des levées de boucliers, y compris sur l'antenne de CNews, en disant que voilà, certains journalistes se distanciaient de ce qui avait été dit, ou en disant qu'on ne pouvait pas dire ça. Bon. Et donc effectivement, comment vivre ces situations qui sont extrêmement stressantes? J'ai eu la chance d'avoir des bons conseillers qui m'ont dit déjà pendant deux ou trois jours, tu fermes les écoutilles, c'est-à-dire que tu n'écoutes pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux, etc. Parce que il y a aussi à ce moment-là une fascination un peu morbide, qui, enfin, à lire tout ce qui peut être dit sur nous, même si c'est en négatif. Bon, bah voilà. On se prend ça dans la figure et on ne sait pas très bien comment réagir. Donc j'ai fermé les écoutilles, je n'ai pas lu tout ce qui se disait. Et puis ensuite, j'ai eu la chance aussi, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vraiment les protections spirituelles, moi je crois que c'est essentiel. Avant maintenant j'habite dans le sud de Paris, mais avant j'habitais près de la paroisse Saint-Michel dans le 17e. Et croyez-moi que la protection de l'archange Saint-Michel, c'est pas de la blague. Et donc vraiment voilà, les secours de la messe, de la prière, de la Vierge Marie, de Saint-Michel ont été essentiels pour traverser cette période. Et j'ai eu la grâce, hein, vraiment, je pense que c'est une grâce, ça venait pas de moi, de vivre ça à peu près sereinement. Alors c'est vrai que après, par rapport à ces autres journalistes que je croisais quasiment chaque semaine dans les couloirs, c'était pas facile. Je vais vous confier une petite anecdote qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il y a eu aussi un jeune journaliste qui s'est distancié de ce que j'avais dit en disant qu'il fallait voter la loi qui constitutionnalisait l'avortement dans la Constitution française. Et or, je sais que ce journaliste, il vient plutôt d'une culture chrétienne. Je ne sais pas s'il est pratiquant et puis ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, probablement qu'il savait que l'avortement n'était pas un bien. Et malgré tout, il est allé dans le sens du plus grand nombre. Et je l'ai croisé. Il se trouve que et en plus, il avait travaillé pour moi au début de l'émission. Ça me touchait d'autant plus personnellement. Et puis il se trouve que je l'ai croisé dans l'ascenseur, on était tous les deux quelques jours après, donc c'était vraiment très chaud, encore très, très frais. Et là, je ne savais pas quoi lui dire. En fait, j'y ai longtemps réfléchi après, je me suis dit, est-ce que j'aurais dû lui dire, mais en fait tout est passé dans le regard. C'est-à-dire que à ce moment-là, je l'ai regardé, mais vraiment en lui disant, mais est-ce que tu as conscience, c'est ce que j'aurais voulu lui dire, est-ce que tu as conscience de ce que tu as dit et que pour toi ça peut être aussi pénalisant pour le salut de ton âme. Et les mots ne sont pas sortis, mais je pense qu'il a compris dans mon regard que tout ça voulait dire, et lui-même me regardait et je voyais qu'il faisait pas le fier. Bon, et puis ça s'est arrêté là, l'ascenseur s'est arrêté. Donc je ne sais pas ce qu'il en a été ensuite, est-ce qu'il a réfléchi, j'espère, mais c'est vrai que trouver les mots dans ces moments-là, c'est pas toujours évident, et puis on veut pas non plus être agressif avec les gens, peut-être que si ça se reproduisait, je saurais trouver les mots, mais là ça n'a pas été le cas. Et puis ensuite, j'ai croisé aussi d'autres journalistes, et c'est vrai que ça a été le plus dur finalement, c'est pas les critiques de l'extérieur, c'est comme Jésus avec ses disciples, quand il y en a un qui le trahit, ça fait plus mal que lorsque ce sont des gens qui nous connaissent pas ou qu'on connaît pas et qui adressent des critiques à travers un média, dont on sait qu'il est hostile, donc de toute façon il n'y a rien à attendre. Là, les croiser dans le couloir et le positionnement, pareil, n'était pas très facile. Mais je crois que c'est l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus dit « il faut aimer ses ennemis ». Je pense que ça a été un peu une leçon de cet ordre-là, de me dire moi je n'ai rien renié de ce que j'ai dit et je suis resté droit dans mes bottes. Mais en revanche, je ne suis pas là non plus pour faire la leçon à ceux qui pensent différemment, qui peut-être m'ont trahi. Mais après tout, ils avaient peut-être des raisons, ou en tout cas ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient, pour eux c'était pas très important, enfin vous voyez, il peut y avoir plein d'autres explications, donc c'était pas à moi de les juger, du coup on a réussi quand même à passer au-dessus de ça et à renouer le fil. Même si maintenant on sait à quoi s'en tenir chacun et on n'a pas les mêmes idées, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait réussi à renouer d'une certaine manière des relations plutôt que de rester sur un froid. Et puis moi je me suis dit, après tout, j'ai rien à me reprocher. Pourquoi est-ce que je raserais les murs? Donc j'ai fait comme si finalement pas il s'était rien passé, mais j'avais pas à me justifier. Donc si eux-mêmes ne souhaitaient pas engager la discussion, c'était pas forcément à moi de le faire. En tout cas, ils savent maintenant ce que je pense et comment j'ai réagi. Je sais pas si c'était la bonne façon, mais en tout cas, on fait comme on peut dans ces moments-là.